Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 64 concernant la plus importante série et le thème qui concerne la prière. Nous aurons trois petits sujets. Le secret pour croître au centuple, ça sera notre premier sujet. Le deuxième, la prière, une guerre contre le diable. Et le troisième sujet, l'autorité du croyant. Nous revenons à notre premier sujet, le secret pour croître au centuple. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Romains chapitre 8, verset 26. Et maintenant, nous venons à un des plus grands de tous les secrets de la prière. Ainsi que l'émetteur de radio peut amplifier la voix humaine afin qu'elle puisse atteindre le monde entier s'il le faut, et bien de même, oui, de la même manière, le pouvoir de l'Esprit Saint peut amplifier nos efforts faibles et humains et peut les faire assez puissants à transporter des montagnes. En Genèse chapitre 1, on nous a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et qu'il transforma tout le chaos primordial en un ordre parfait. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Lorsque Dieu compléta son œuvre, les mers se mouvaient dans leurs bornes fixées, les collines et les montagnes parurent dans leur lieu convenable, les fleuves coulaient le long des vallées vers les mers, et ceci de la même manière qu'avait décidé exactement le Seigneur. Pourtant, il fallait que peu de temps avant que le mal entrât dans la belle création de Dieu, ainsi, il fallait que Dieu restaurât son œuvre. Avec cet objet en vue, il ordonna que la prière soit le moyen d'introduire son Esprit Saint dans l'œuvre de restauration. Les Écritures montrent clairement que l'Esprit de Dieu a un rôle vital dans l'exaucement de la prière. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Saint Jean, chapitre 6, verset 63. La manière dans laquelle nous laissons mouvoir l'Esprit de Dieu dans notre prière est profondément importante. Dans la vie de Christ, le rapport entre sa prière et le mouvement de l'Esprit de Dieu est fortement manifesté. Dans sa première action publique du baptême, quand il sortait de l'eau en priant, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Saint Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, nous est-il dit, où il passa 40 jours en jeûnant et en se confiant en Dieu. Ces jours-là, il affronta le diable face à face, Saint Luc chapitre 4, et là, par l'épée de l'esprit, il surmonta avec succès toutes les tentations qu'avait à offrir le prince de ce monde. Après avoir retourné du désert, Jésus-Christ choisit les 12 disciples et une de ses premières leçons était de leur enseigner à prier. Le comble de son enseignement était la grande révélation que le Saint-Esprit, qui avait été retenu auparavant pour quelques personnes seulement, devait être maintenant répandu sur toute chair. Tout le monde qui le demande au Père Céleste peut recevoir maintenant le Saint-Esprit. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Saint Luc, chapitre 11, versets 9, 10 et 13. En chapitre 6, versets 12 à 18, de l'Épître aux Éphésiens, Paul, l'apôtre, parle de la guerre du chrétien. Il déclare que le chrétien n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aussi, après avoir fait une liste des armes de Dieu qui sont nécessaires afin de résister à l'ennemi, l'apôtre Paul montre de quelle façon le chrétien peut faire cette guerre en priant par l'Esprit Saint. Il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens, chapitre 6, verset 18. La raison pourquoi beaucoup de gens n'ont jamais pu prier avec du pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à prier par l'Esprit Saint. Ils savent qu'ils ont besoin du pouvoir additionnel. Ils confesseront qu'ils éprouvent souvent des empêchements dans la prière et qu'ils n'ont pas la force à surmonter. Quelle est la réponse à leur problème? Nous disons à cela que si on désire résoudre ces difficultés, il s'agit d'apprendre à prier par l'Esprit Saint. Afin de prier avec succès pour un monde qui est perdu, nous avons donc besoin du pouvoir du Saint-Esprit. Afin de faire la guerre contre les dominations et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous avons besoin plus que jamais de la présence de l'Esprit Saint. Afin de servir les malades, et ça veut dire en leur corps et en leur âme, eh bien, encore une fois, nous avons besoin de la compassion de l'Esprit Saint. Afin d'exercer les dons de l'Esprit Saint, nous avons besoin du pouvoir vivifiant de l'Esprit Saint. Nous échouerons certainement si nous essayons de faire ces choses au moyen de notre propre force. Voici le secret que nous devons apprendre. Quoique Dieu écoute les prières du plus faible saint, pourtant, afin de prier avec pouvoir, afin de prendre l'offensive spirituelle, il faut que nous apprenions à prier par l'Esprit Saint. Et c'est là pourquoi, en Romains chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul nous montre la grande importance de l'Esprit Saint dans notre vie de prière. Voyez-vous, de même, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider dans nos prières. Souvent, nous ne savons pas ce dont il nous convient de prier. Nous ne savons pas quelles tentations nous aurons à l'avenir, peut-être déjà aujourd'hui. Cependant, l'Esprit Saint de Dieu sait absolument s'il y a des trappes en avant. Et il priera effectivement contre le danger si on lui donnera l'occasion. Nous savons que d'autres ont besoin de nos prières. Mais c'est l'Esprit qui sait qu'une personne particulière a un besoin difficile à toute heure donnée. Nous avons besoin de la sagesse quand nous prenons des décisions, surtout celles que nous sommes obligés de prendre dans le plus bref délai. L'Esprit de Dieu sait absolument tout. Il prévoit tout. Et quand on lui donne l'occasion, il nous prépare pour cette décision-là. Son omniscience et son omnipotence feront concourir à notre bien toutes choses. Il n'est pas étonnant que les deux grandes vérités de Romains chapitre 8, verset 26 et 28 sont révélées ensemble, car l'un suit l'autre. Si l'Esprit de Dieu prie pour nous, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il fera concourir tout au bien de toutes choses. Saint Paul priait avec l'intelligence. Il priait aussi par l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la langue inconnue. C'est la glossolalie. Quoique il parlait peu, nous est-il dit, il parlait peu en langue. Cela est bien spécifié. Et surtout, il parlait peu en langue en public. En public. En fait, voyez-vous, il pouvait quand même dire ceci: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 18. Il savait qu'il était important de parler par l'Esprit Saint. À moins que nous ne prions par l'Esprit Saint, il se peut que nous négligerons des choses essentielles. Peut-être aurons-nous de l'opposition que nous ne prévoyons pas. Peut-être y aura-t-il des problèmes inopinés que nous ne nous attendons pas à affronter. Cependant, le Saint-Esprit peut venir à bout de chaque circonstance et chaque problème qui tomberont sur les croyants. Si nous manquons de la foi, nous pourrons entrer dans l'orbe de la foi de Dieu. Si nous laissons prier par nous, tout simplement le Saint-Esprit. Quand il prie, le surnaturel entre en vigueur et il se passe le miracle pour lequel nous n'avons pas tout à fait la foi nécessaire. Il y a des gens qui ont prié pour une chose particulière depuis plusieurs années et leur foi ne semblait jamais pouvoir être exaucée. Alors, tout à coup, comme l'Esprit de Dieu tomba sur eux en prière, le miracle arriva. Ainsi s'est accompli. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en le Seigneur renouvellent leur force. Beaucoup de gens ont l'habitude de se précipiter dans la présence du Seigneur. Ils ne prennent pas de temps pour subjuguer leur âme devant lui. Ils sont tellement remplis d'activités naturelles qu'ils ne donnent jamais l'occasion à l'Esprit Saint d'entrer dans leur prière. David, c'était pas n'importe qui. Il savait, vraiment il savait se confier en Dieu. En psaume chapitre 37, il déclare ceci. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume, chapitre 37, on avait dit, mais là, c'est le verset 7 jusqu'au verset 9. Non seulement les montagnes, mais le monde entier seront donnés à ceux qui espèrent et se confient en le Seigneur. David se confiait en Dieu. Et il remportait ses victoires quelquefois contre de grandes choses. Il apprit à consulter le Seigneur avant de faire chaque démarche. Une fois, les Philistins venaient contre lui. Sortirait-il pour les affronter? Dieu dit, pas encore. Il devait attendre jusqu'à ce qu'il ait entendu un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Alors, là, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. 2 Samuel, chapitre 5, verset 24. Il devait attendre jusqu'à ce que l'Esprit Saint agisse. Oui, jusqu'à ce qu'il ait entendu un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Alors, il saurait que le temps de la victoire était venu. Lorsque les apôtres témoignèrent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ils étaient prêts à sortir pour prêcher la bonne nouvelle, mais Jésus leur dit « Pas encore. Attendez ce que le Père a promis. » En obéissant, ils retournèrent, rappelez-vous, à la chambre haute, où ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et le jour de la Pentecôte était arrivé, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce jour, l'Esprit de Dieu tomba sur les disciples avec un tel pouvoir que commença un réveil qui fit trembler le monde. Voici un autre grand secret dans l'art de prier, s'il vous semble que vous faites des progrès lents. Qu'apparemment vos prières ne sont pas exaucées ou qu'une muraille de résistance vous confronte, alors, chers amis, confiez-vous et espérez en le Seigneur. Confiez-vous un peu moins en vous-même, un peu plus dans le Seigneur, ça ne fera pas de mal. Apprenez à laisser mouvoir l'Esprit Saint. Attendez un pas, souvenez-vous, dans les cimes des mûriers. C'est joli ça. Et quand l'esprit se meut, donnez-lui la liberté d'agir. Le Saint-Esprit réussira là où vous échoueriez, car il sait comment prier, il sait ce qu'il faut demander et comment obtenir l'exaucement. Il fera croître au centuple votre pouvoir dans la prière. Il y a, on peut dire, le secret de l'ennemi invisible. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, je crois, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, la prière, c'est vraiment une guerre spirituelle. Les ennemis spirituels qui sont invisibles, mais néanmoins réels, hein, c'est pas de l'imagination ou du virtuel. Ils se rangent contre nous, contre vous. Si nous n'avons pas une vie de prière qui est vigoureuse, nous sommes plus, on peut dire plus ou moins, et j'en suis même certain, à la merci de ces puissances invisibles. Les hommes sans prière, oh là là, il y en a beaucoup plus qu'on pense, sont poussés par des forces méchantes dont ordinairement ils n'ont pas connaissance. Peu de chrétiens reconnaissent l'intervention de ces méchantes puissances dans les affaires des hommes. Les gens s'occupent surtout de la chair et du sang. Principalement, ils emploient leurs forces en luttant contre l'opposition qu'ils peuvent voir. Ils ne réalisent pas que la chair et le sang ne sont pas l'ennemi réel. Dès que ces ennemis du monde de ténèbres sont muselés, le chrétien trouvera que les agents humains par lesquels ils fonctionnent ne seront plus importants. L'apôtre Paul nous a montré la nature de la guerre chrétienne. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui ? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Et c'est confirmé, on l'avait déjà dit, dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Il a nommé l'armure et les armes dont nous avons besoin pour faire la guerre avec succès. Je crois que ça vaut la peine que vous lisez un jour très attentivement ces versets, et je crois qu'il faudrait même les lire. C'est Éphésiens chapitre 6, comme nous l'avons dit, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18. Chers amis, croyez-moi, la prière est carrément une véritable guerre contre le diable. Quand nous sommes équipés de cette façon, nous devons prendre l'offensive contre le diable en faisant en tout temps, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Notre guerre, elle est vraiment contre un ennemi réel. Oui, celui qui cherche constamment à profiter de toutes les ouvertures. Pardon. Ainsi, au temps de Job, où les fils de Dieu, nous est-il dit, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Job, chapitre 1, verset 6. Le diable était là avec l'intention de donner de la peine à tout le monde. Dieu avait aussi une intention et il laissa tomber pour un temps la muraille de protection autour de Job. Satan fit tout ce qu'il pouvait et voulait. Il décida les Sabéens à attaquer les serviteurs de Job. Il fit frapper de la foudre les brebis et les consumer. Il fit venir un grand vent qui fit écrouler la maison où mangeaient et buvaient ses enfants. C'est lui qui frappa Job d'un ulcère malin. Job chapitre 2, verset 7. Quelle révélation, c'est tout cela. Mais à ce moment-là, Job ne comprenait pas du tout ce qui lui arrive. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Mais en fait, c'est Dieu, en effet, qui donnait. Mais il me semble qu'en réalité, c'est le diable qui ôtait. Que de choses étonnantes nous verrions si nos sens pourraient discerner tout ce qui arrive vraiment dans les cieux. Cependant, la Bible nous donne une vue de tout ce qui a lieu dans le monde de l'esprit. Par exemple, nous avons le chef du royaume de Perse. En Daniel chapitre 10, nous entrevoyons les fonctions du diable sur une échelle mondiale. Là, on décrit l'un des lieutenants de Satan comme le chef du royaume de Perse. Le vrai gouverneur d'une nation n'est pas un roi ou un potentat humain, président ou pas, mais plutôt un prince du royaume des ténèbres. Ce prince puissant, vraiment puissant des esprits, il a sous lui une légion des moindres esprits des démons qui exécutent ses consignes et qui les exécute par eux. Donc Satan maintient son royaume et il accomplit son dessein de tromper les hommes. Autant que Daniel priait, 3 ans s'étaient écoulés depuis que la première compagnie de Juifs s'était retournée à Jérusalem. C'était un exaucement glorieux de la prière. Pourtant, Daniel sut que tout n'allait pas trop bien. Le harassement continuel que subirent les Juifs dans leur patrie était de mauvais augure à l'avenir. Daniel se demanda quel serait bien le destin de sa nation dans les générations à venir et il avait le cœur très gros, oui, on peut dire le cœur gros, pour le bien-être de son peuple affligé. Il voulait avoir connaissance du résultat des événements dans les siècles à venir. Il pensait tellement à ces choses qu'il a mis à part un temps pour la méditation et pour la prière afin qu'il puisse obtenir de Dieu de lui révéler l'avenir. Daniel était accoutumé à l'exaucement de toutes ses prières. Cependant, à ce moment, il semblait qu'il n'y avait pas d'exaucement du tout. Mais le prophète n'était pas découragé. Il se pressa à d'autres efforts. Maintenant, il se donna à la prière et au jeûne. Il se fit une règle de ne jamais céder jusqu'à ce que vînt enfin l'exaucement. Pourtant, voyez-vous, les jours continuèrent à s'écouler et il n'y avait pas d'indication que Dieu l'écoutait presque 3 semaines, on peut dire. Presque 3 semaines se sont écoulées et encore aucun exaucement. Alors, la 21e journée, quelque chose arriva. Oui, un ange de Dieu apparut soudainement dans sa chambre. Selon le témoignage de l'ange, l'Éternel avait déjà entendu la pétition de Daniel dès le premier jour même, et Dieu a envoyé son ange pour lui parler. Mais une puissance terrible, qui était très maligne également, c'est-à-dire le chef du royaume de Perse, avait résisté. Et l'ange dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, il m'a résisté 21 jours, mais heureusement, voici que Yahvé l'Éternel a envoyé l'archange Michel, l'un des principaux chefs, est donc venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, j'ai pris cela d'une version anglaise. C'est là peut-être une des révélations les plus remarquables de l'Ancien Testament. Ce qui est dit et ce qui est évident de ces versets nous donne une vision unique dans le monde invisible au-dessus de nous. On ne doit pas regarder le prince du royaume de Perse comme le gouverneur humain de Perse, pas du tout, qui n'avait pas certainement le pouvoir de résister à un ange, mais plutôt comme un prince des esprits sous Satan. Les princes humains ne sont pas les vrais gouverneurs, les présidents divers que nous avons, mais les puissances des ténèbres qui sont invisibles et qui habitent les lieux célestes, ceux-ci déterminent beaucoup d'événements dans ce monde, dans les nations, toujours naturellement, selon les limites de la permission divine. C'est un fait qu'il y a un royaume spirituel qui contient des dominations et des autorités. Chaque nation a son gouverneur qui est un esprit invisible. Chaque royaume de la terre est sous la domination des forces organisées du malin qui cherchent l'appliquer complètement tout à leur volonté. Saint Luc nous a dit que ce monde est complètement sous la domination de Satan, le diable l'ayant élevé, Jésus-Christ, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Or, sous Satan, il y a des princes inférieurs qui ont à leur tour des armées de démons. Tous travaillent avec le seul objet de maîtriser toute la vie intelligente de cette planète. Ceux qui supposent que l'homme s'est développé des espèces inférieures et qu'à l'avenir, il y aura une race surhumaine qui créera son propre millénaire. Peut-être, va savoir, ce sera les chimpanzés qui tout à coup se sont modernisés et ont commencé à parler et à faire des choses extraordinairement fabuleuses. Mais ces gens, ils s'abusent sérieusement. Les efforts humains pour la régénération de la race sont impuissants. Seule la prédication de la bonne nouvelle peut changer la nature tombée de l'homme. Et combien on est tombé bas. Il n'y a qu'à voir la télévision le soir. Je peux vous dire, ça nous montre exactement qu'on n'est pas très loin, et peut-être même pas loin du tout, de la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de notre dispensation de la grâce, ça c'est certain. Les puissances spirituelles dans les lieux célestes ne sont délogées que par la guerre spirituelle. La force du prince de Perse, elle est démontrée par le fait qu'il a réussi, à résister l'ange pendant 3 semaines. Et c'était grâce au renforcement que Dieu a envoyé par l'archange Michel, qui obligèrent enfin les puissances des ténèbres à céder. Néanmoins, Daniel continuait à prier et l'Éternel exauça sa prière. À la fin, la puissance de l'Esprit de Dieu vainquit les puissances des ténèbres. On peut dire tranquillement, Alléluia. Que se serait-il passé si Daniel avait cédé? On ne peut guère imaginer la réponse à cette question. La foi de Daniel dans la prière produisit un fort effet sur le résultat de la lutte dans les lieux célestes, parce qu'il persévérait dans la prière, le prince de Perse était vaincu. Nous avons un homme du passé, pas tellement d'un passé lointain, c'était Finet. C'est l'homme qui fit venir des réveils par la prière. Un bon exemple du conflit qu'on affronte quelquefois en luttant contre ses dominations et ses autorités, c'était passé à bord d'un vaisseau sur la mer dans l'intercession de Charles Finet pour un réveil pendant qu'il retournait chez lui d'Europe. Pendant quelques 12 ou 14 années, il avait pris part à une série de réveils qui avaient influencé profondément l'Amérique. Mais le travail excessif avait miné sa santé et il avait entrepris un voyage pour faire restituer sa force. Pendant qu'il se reposait un peu, on lui dit une nouvelle qu'il y avait en Amérique, une forte agitation contre l'esclavage, et Finet devint assez inquiet que cette confusion retarderait un réveil spirituel. Il a dit « Comment l'esprit de la prière était venu sur lui et comment Dieu a exaucé ses prières ?» Il dit du reste ceci, écoutez bien. « Pendant la traversée, je pensais beaucoup à la question des réveils. J'avais peur qu'ils diminueraient partout. Il semblait que ma propre santé s'était altérée et je n'avais pas connaissance d'un autre évangéliste qui pourrait se mettre en campagne et aider les pasteurs dans l'œuvre du réveil. Un jour, je ne pouvais pas me reposer et mon âme était en angoisse. J'ai passé presque le jour entier en priant dans ma chambre ou en marchant sur le pont. J'étais capable vraiment de prier encore, car j'étais accablé, vraiment hein, accablé, on peut dire, d'un poids qui était sur mon âme. Il n'y avait à bord du reste personne à qui je pouvais parler de mes problèmes. Et c'est l'esprit de la prière qui était sur moi. Oui, c'est quelque chose que j'ai eu auparavant, mais jamais pendant un temps pareil et à un tel degré. J'ai demandé au Seigneur de continuer son œuvre et de se pourvoir de tel serviteur s'il le fallait. Après un jour de lutter et de souffrir, l'agonie de mon âme, le sujet était donc clarifié, l'Esprit Saint m'a fait comprendre que tout serait bien et que Dieu avait encore une grande œuvre à laquelle il me voudrait faire participer et que je pourrais me reposer et que le Seigneur continuerait son œuvre. On demande par quoi, parfois, pourquoi fallait-il que Finet ait lutté dans la prière pendant si longtemps? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne pourrait pas lui donner immédiatement l'exaucement? La raison est qu'il fallait remporter, voyez-vous, souvenez-vous de Daniel, il fallait remporter une victoire, où cela? Dans les lieux célestes. Car Satan résistait au grand réveil. C'était l'heure décisive. Si le diable pouvait décourager Finet, et ceci avant que la bataille spirituelle ait été gagnée, alors il pouvait arrêter le réveil. Mais Finet, comme Daniel, continuait à lutter jusqu'à ce que Dieu ait envoyé des renforcements et le jour était arrivé et le grand réveil continua à avoir lieu. Finet a dit « Le réveil a passé rapidement au travers du pays avec un tel pouvoir qu'on a dit qu'il y avait environ 50 000 conversions en une seule semaine. Des réunions pour prier étaient établies d'un bout à l'autre des États du Nord. Si ce réveil avait eu lieu aussi au Sud, il est probable qu'on aurait détourné la guerre civile en Amérique. Apparemment, il n'y avait pas un homme dans les États du Sud qui pouvait lutter dans la prière comme Charles Finet. À l'égard à ce besoin d'un homme qui pouvait intercéder jusqu'à l'exaucement, on se rappelle les paroles du Seigneur. Et il a dit, Yahvé l'Éternel a dit dans Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 et 31, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et ceci afin que je ne le détruise pas. Mais, je n'en trouve point. Je répandrai donc sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. » Ézéchiel 22, versets 30 et 31. Voici donc un autre secret de la prière qui fait ôter des montagnes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités dans les lieux célestes. Oui, des montagnes spirituelles, c'est-à-dire des royaumes spirituels, nous résistent. Aussi, si nous restons constants dans la prière, Dieu nous enverra les renforts comme il faut pour arriver à la victoire. N'acceptez jamais l'insuccès ou la défaite. Quoique l'exaucement puisse tarder, il viendra assurément. Celui qui voudrait faire ôter et faire transporter des montagnes, lui ne doit pas se laisser décourager, jamais. Chers amis, n'oublions jamais qu'il est écrit dans Saint Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous avons parlé du pouvoir illimité qui est disponible à ceux qui prient, que par la foi, le croyant peut faire transporter les montagnes même qui barrent le passage. La question inévitable est, à qui est l'autorité par laquelle on peut parler à la montagne et dire « ôte-toi de là » ? À qui est l'autorité par laquelle on peut parler aux éléments et commander qu'ils lui obéiraient ? Nous savons que l'univers est gouverné par l'ordre et par la loi de Dieu. Les anges aux cieux se conforment à la loi et même les démons la reconnaissent et la respectent. Les pharisiens savaient très bien qu'on devait accomplir les miracles par quelques autorités, lorsqu'ils voyaient les œuvres puissantes de Jésus-Christ. Ils étaient fort embarrassés. Par quelle autorité faisaient-ils ces choses? Ils se décidèrent de lui demander où il avait obtenu son autorité. C'était le même jour que Jésus-Christ avait parlé au sujet de la foi, selon Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22, que sont venus donc là les pharisiens pour le questionner. Auparavant, ils discutaient encore ce sujet au moment où arrivèrent les pharisiens. Et Jésus-Christ parlait de faire ôter des montagnes, n'est-ce pas? Eh bien, qui lui a donné cette autorité de dire et de faire toutes ces choses? Ils se tournèrent donc vers Jésus-Christ et lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Et qui t'a donné cette autorité ?» Saint Matthieu, chapitre 21, verset 23. Les pharisiens hautains n'obtinrent pas beaucoup de satisfaction de Jésus-Christ. En refusant de satisfaire leur curiosité, il leur donna une question qu'ils trouvèrent trop embarrassante pour pouvoir y répondre. Aussi, ils partirent en frustration et très en colère. Mais Christ avait déjà révélé le secret de son autorité. Il avait dit auparavant à tous ces Juifs qu'il était venu au nom de son Père, Saint Jean chapitre 5 verset 43. Il fit les miracles parce que le Père lui avait donné l'autorité. Il ressuscita les morts parce que son Père lui avait donné le pouvoir, Saint Jean 5, verset 21, verset 28 et 29. Il n'est pas un secret où Jésus-Christ a obtenu son autorité, c'était donné au Seigneur par son Père. Chers amis, quelle est l'autorité du croyant? Maintenant, nous venons, en effet, à une question assez délicate. Christ obtenait son pouvoir de son Père, mais le croyant, lui, où va-t-il obtenir, d'où va-t-il obtenir le sien? L'obtient-il directement du Père, comme Jésus-Christ le faisait? Non, non, pas du tout. Personne n'est digne, et je ne savais pas cela il y a encore assez longtemps, mais j'ai compris, en effet, en étudiant à fond, que personne n'est digne de s'approcher du Père comme Christ le faisait. Car tous ceux qui viennent au Père doivent venir par Jésus-Christ. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je répète, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Souvent, nous oublions cela. C'est écrit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Le pouvoir de délivrer les hommes, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir d'affranchir les hommes de la servitude, ce pouvoir doit venir par le Seigneur Jésus-Christ. Voici le secret de la prière du Nouveau Testament. Et voici le secret de l'autorité du croyant. Tout ce que nous avons vient uniquement par Christ. Tout ce que nous avons. Il n'y a pas de salut ou de guérison ou même de délivrance ou de la délivrance du pouvoir sur Satan sauf par le nom de Jésus-Christ et par l'autorité de son saint nom. Lorsque Jésus-Christ fut ressuscité et fut enlevé pour aller vers son Père, les disciples commencèrent à faire les œuvres puissantes qu'avait commandées Jésus. Les pharisiens entendaient de ce qui se passait et ils vinrent vers Pierre et vers Jean après qu'ils eurent guéri un homme boiteux à la porte du temple appelé la Belle. Ils s'étaient étonnés de ce qu'ils avaient vu. Et ils demandèrent, mais par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait tout cela? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 7. Saint-Pierre répondit à leur question en disant, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, vous, et que Dieu a ressuscité des morts. Oui, c'est par Christ Jésus, par lui, par cet homme qui se présente en pleine santé devant vous, là, devant vous maintenant, eh bien c'est par Christ qu'il a été rétabli, guéri, délivré. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons ou devrions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 et 12. Chers amis, avant de terminer par la prière, voyons encore juste la question de la procuration. En permettant à ses disciples de se servir de son saint nom, Jésus-Christ leur a donné la procuration, c'est-à-dire il leur a donné son autorité. Lorsqu'ils se servent de son pouvoir, c'est la même chose comme si lui-même s'en servait. Comme le Père m'a envoyé, eh bien moi aussi, je vous envoie. Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Donc, comme Christ a reçu l'autorité du Père, eh bien de la même façon, il leur a donné cette autorité en donnant l'usage de son saint nom aux disciples. Il leur a donné le pouvoir illimité. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'où pouvoir dans le ciel et sur la terre a été aussi donné à ses disciples. La raison que beaucoup de chrétiens semblent avoir un si petit pouvoir dans leur vie, ce n'est pas parce que le pouvoir n'est pas disponible, mais parce qu'il manque de s'en servir. Et là, je m'accuse aussi. Si un millionnaire qui a des fonds illimités dans une banque nous donnerait, par exemple, un carnet de chèques, après avoir signé son nom au pied de chaque chèque, et dirait « Servez-vous de tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il nous ferait du bien jusqu'à ce que nous ayons rempli un des chèques et que nous soyons allés à la banque pour le toucher ?» Le pouvoir que le Seigneur nous a donné est très grand, mais il ne peut pas nous faire du bien à moins que nous ne remplissions quelques chèques et à moins que nous n'offrions ces chèques à la banque du ciel. Eh oui, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Christ a donné un si grand pouvoir aux hommes. Nous ne disons que c'est absolument vrai, il faut donc que nous nous servions tout de suite de ce pouvoir illimité afin de descendre et de défendre surtout la bénédiction du ciel sur l'humanité souffrante. Si nous nous en servons pour notre propre gratification ou pour notre agrandissement personnel, comme malheureusement certains le font, alors ça c'est un abus du pouvoir accordé, évidemment. Chers amis, nous allons maintenant terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Dieu Tout-Puissant, qu'il est triste en nous approchant de toi, de ne pas sentir au fond de nos consciences l'assurance de ton approbation paternelle, de ne point entendre ta voix nous dire « Cela va bien, bon et fidèle serviteur. » La plus coupable présomption, le plus fol orgueil pourrait seul nous entraîner à croire que nous pouvons venir à toi sans nous repentir et sans douleur de t'avoir offensé de mille et mille manières. Chaque jour, nous oublions nos devoirs envers toi, oui Seigneur, et nous méconnaissons ceux que tu nous imposes envers nos semblables afin de nous dispenser de les remplir. Il n'est aucun de nous qui puisse sortir de la route tracée par ta volonté, dans laquelle chaque pas doit être l'accomplissement d'un devoir prescrit par ta sainte parole. Tous, nous devons obéir à tes commandements, et toutes nos actions, tous nos discours, toutes nos occupations sont des preuves de notre docilité ou de notre désobéissance. La persévérance dans nos devoirs, de quelque nature qu'ils puissent être, est donc ce que tu exiges de nous. Et tu nous déclares que celui-là seul qui est fidèle dans les petites choses peut l'être aussi dans les grandes. Il n'y a donc point pour nous de devoir insignifiant. Tous se rattachent à l'obéissance à ta loi sainte. tous composent les anneaux de la chaîne que ta bonté a placée comme un rempart autour de nous, afin de nous empêcher de courir vers l'abîme. Hélas, trop souvent, nous brisons cette chaîne protectrice. Nous voulons errer au gré de notre volonté. Nous nous révoltons contre les obligations qui contrarient nos goûts et nos caprices. Que deviendrions-nous, Seigneur, si tu n'avais pas pitié de nous sans cesse à chaque instant de notre existence? Oui, aide-nous donc à marcher dans la persévérance, et pour que nous y puissions parvenir, fais-nous comprendre l'étendue de notre faiblesse, afin que nous cherchions en toi toute notre force pour être fidèles, rachetés à grand prix et devant glorifier dans nos corps et dans nos esprits le Sauveur miséricordieux qui est mort pour nous, que tout ce que nous faisons soit fait de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes, et que notre persévérance à prier, notre persévérance à te demander, ô Dieu, de nous soutenir contre nous-mêmes, produise enfin en nous la persévérance à remplir tous nos devoirs. Daigne exaucer, ô Père céleste, cette humble requête, oui Seigneur, pour l'amour de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et chers amis, n'oubliez pas et jamais que Dieu vous aime et ça vaut la peine de marcher avec lui. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, car ce sont vraiment des études qui vous seront utiles plus que jamais pour la suite, car sans connaître à fond l'importance de la prière, il est inutile de penser à vouloir servir le Seigneur pour aider ceux qui sont malades dans leur corps et dans leur âme et esprit. À bientôt à nouveau, chers amis. Au revoir.